Bien. Alors, on va, si vous le voulez bien, commencer notre troisième séance sur le thème des chefs-d'œuvre inconnus, reprenant, paraphrasant le titre de la nouvelle de Balzac. Vous connaissez nos petites règles habituelles que je vous repasse pour la forme, mais que vous apprenez tous les soirs avant de vous coucher. Je vous propose donc que nous arrivions directement au vif du sujet. Je suis persuadé que vous tous et vous toutes connaissiez le penseur de Rodin. Peut-être, par contre, n'aviez-vous pas connaissance de tous les éléments qui se trouvent derrière cette œuvre. De la même manière, je pense que la laitière de Vermeer n'avait pas de mystère pour vous, si ce n'est peut-être là aussi le contexte qui était le sien. Et je pense que de la même manière, tout le monde ici connaît l'œuvre que je vais vous montrer maintenant. Prêt ? Alors, c'est quoi ? Impression, soleil, le vent de Monet. Bravo. J'ai pourtant caché la signature, mais je vois que... Enfin, c'est le but du jeu, théoriquement. Toutes les œuvres que je vais vous montrer, tout le monde les connaît. C'est le but. Vous avez cité l'auteur de cette œuvre, Monet. Vous avez dit le titre du tableau, Impression, soleil, le vent. Qu'est-ce qui fait que ce tableau... Enfin, d'abord, avant d'évoquer ça, qu'est-ce que représente le tableau? Qu'est-ce que vous voyez figurer sur cette œuvre?
Un port,
des bateaux,
des grues,
le soleil,
les
reflets du soleil,
des fumées, il y a des fumées aussi.
Des fumées, oui. Donc vous avez décrit, hein, bel et bien le soleil se lève. On a de fait discuter d'ailleurs, certains y ont vu un soleil qui se couche. Non, c'est bien impression soleil levant, d'ailleurs le titre dit, hein, et c'est bien confirmé en fait par les études qui ont pu être faites. Et vous avez cité effectivement l'eau, les bateaux, les barques, les fumées qui se dégagent de grandes cheminées, plus ou moins, les grues, voilà, je crois que tout y est. Vous n'avez pas dit où on était.
Au Havre.
On est au Havre. C'est-à-dire cette œuvre, elle a été faite au Havre. Pourquoi le Havre ?
Parce que c'est beau.
Parce que c'est beau.
Parce que c'est chez moi, alors ah ça bah, fait que beau.
C'est la plus belle ville du monde. Tout le monde en est convaincu. Après tout, elle a été reconstruite par Perret. Vous savez qu'il y a à Chalon un chef-d'œuvre de Perret. Oui, on est tous d'accord pour dire que le Havre est une ville tout à fait passionnante. C'est obligé un très beau film d'un cinéaste finlandais très important. Mais à part ça, donc on est au Havre. Pourquoi le Havre ?
Parce qu'il est de là-bas.
Il est de là-bas, il est né au Havre, Monet ?
Non, parce qu'il est de Normandie.
Voilà. C'est ça, c'est-à-dire qu'il est né à Paris, mais effectivement, le Havre fait partie de ses horizons familiaux, du coup. Donc effectivement, il est allé souvent jeune au Havre. Le Havre est une expédition, j'allais dire, normale, pour lui, naturelle, familialement parlant. Mais pourquoi Monet s'intéresse-t-il au Havre à ce que vous voyez là, c'est-à-dire des grues, des usines fumantes, en plus le matin, parce que le Havre, dont on vient de dire que c'est la plus belle ville du monde, est une ville qui offre d'autres horizons que celui-là, surtout à l'époque à laquelle le tableau était fait. Il a été fait quand, ce tableau?
Au
19e. 19e, et quand ?
Deuxième moitié.
Et quand dans la deuxième moitié ? Dans les années 1860 ? Peut-être, ok. Pardon ?
1870 et quelques.
1870 et quelques. Bon, ok, on va voir. Je récolte tous les avis. Hein. Donc, on est devant un tableau représentant le Havre, le port du Havre, avec ses fumées, ses grues et ses bateaux. On est le matin, c'est un tableau qui a été fait dans la deuxième moitié du 19e, 1860, 1870, plutôt, disaient certains ou certaines. Ok ? Mais encore une fois, ma question, c'est cette belle ville du Havre, certes qui depuis a été, vous savez, largement rasée, hein, et largement reconstruite par Perret. Cette ville du Havre offre d'autres vues que celles de ce port à cette époque. Pourquoi avoir choisi le port
avec les États-Unis ?
Non, pardon. L'Angleterre.
Avec les voyages, les États-Unis.
Ah, c'est un lien avec les ailleurs.
Oui, oui.
Vous voyez ?
Non, je pense que c'est parce que l'œuvre, la révolution industrielle,
la révolution industrielle,
c'est la modernité, c'est voilà. Ça se passe, c'est la vie. Oui.
Alors voilà, donc plutôt une idée de la modernité. Effectivement, la partie du port que vous voyez là est plutôt une partie industrielle. Hein. On a des usines, on a des grues qui chargent les navires de marchandises ou qui les déchargent pour amener des types de matériaux. En effet, ce qui, a priori, intéresse ici Monet, vous avez raison, c'est les dimensions industrielles, la modernité. Hein. C'est qu'en cette fin du 19e, début 20e en Europe, on est passionné par cette modernité-là. Hein. Donc une usine qui crache de la fumée, c'est pas aujourd'hui, comme aujourd'hui, une chose terrifiante qui nous fait pousser droit les cheveux sur la tête. C'est au contraire le symbole d'un progrès industriel formidable. Hein. Donc c'est ce progrès-là, quelque part, que nous présente Monet, plutôt davantage que la vieille ville du Havre, qui était une vieille ville très jolie d'ailleurs, mais l'hôtel de ville, etc., qui est après tout un peu trop, je dirais, traditionnellement pittoresque. Hein. Bien. Très bien. Pourquoi ce tableau que vous avez bien décrit, dont vous dites pourquoi finalement il est pour Monet un sujet en soi, hein, c'est une sorte d'éloge de la modernité, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments dans ce tableau, au-delà de ce choix de ce lieu et de ce lieu au Havre, qui ont guidé Monet à faire cette œuvre-là plutôt qu'une autre.
En même temps, à cause des fumées et de ce que c'est un exercice de style pour montrer les jeux de lumière au sein de ces fumées, de ces des reflets sur l'eau, du ciel dans l'eau. Enfin, c'était un.
Il y a une ambiance.
C'est tout un exercice à.
Voilà, c'est-à-dire que
ce que
vous pointez là, c'est le fait que les fumées, qui créent forcément une sorte de brouillard, hein, de smog,
c'est pas la lumière. Il y a pas une influence de Turner.
Ah, peut-être, effectivement. Turner est certainement un des artistes qui a beaucoup intéressé Monet, effectivement. Hein. Turner, un peintre anglais s'il en est, né à Londres, mort à Londres, qui effectivement a beaucoup titillé Monet. Turner est bien sûr une des inspirations de Monet, vous avez tout à fait raison. Et Turner lui-même s'est beaucoup intéressé à ces dimensions atmosphériques, hein, et ça dans la première moitié du 19e. Hein. Donc cette idée-là est évidemment quelque chose qui intéresse beaucoup Monet. Hein. Donc effectivement, vous avez raison, hein, le côté nuage, fumée, intéresse beaucoup l'artiste parce que ça crée une atmosphère en particulière. Hein. Au-delà de la dimension de modernité, ça crée une atmosphère spéciale, de même que le soleil. À votre avis, l'œuvre a été faite à peu près à quelle heure de la journée ? Pardon ?
Ça dépend de la date.
Quelle est la date ? Pardon ?
C'est plus
À votre avis, oui, actuellement. Ça a été très bien calculé, on sait presque à la minute près. Hein, vraiment,
la position du soleil par rapport à l'an.
Quasiment, oui, ça a été calculé. Il y a des travaux. Donc, à votre avis, été, hiver, printemps, automne
Automne, hiver.
Oui, alors, il n'a peut-être pas mis un temps fou pour faire l'œuvre, d'ailleurs. Hein. Mais, en tout cas, c'est une œuvre qui a été faite, effectivement, en automne, en novembre. Hein. En novembre de ces années 60-70, on en parlait tout à l'heure, on va y revenir. Et le matin, hein, je crois qu'il a été calculé que c'était autour de 7h30, je ne sais pas, c'est pas 7h38 d'ailleurs du matin. Autour de 7h30. Voilà. Alors pourquoi cette œuvre que vous avez bien écrite est-elle ce chef-d'œuvre que nous regardons ce soir ? Qu'est-ce qui fait qu'elle est universellement célèbre, en tout cas dans le monde occidental, voire au-delà ? Quelle est la raison de son importance ?
Il a fait un scandale.
Oui, un scandale.
C'est
C'est la première.
Alors là j'entends un petit peu de choses. J'ai entendu que c'était une œuvre qui avait fait scandale, et donc d'où son importance. Et j'ai aussi entendu autre chose qui était que c'était une des premières œuvres impressionnistes.
Mais oui, pourquoi, comment?
C'est le nom Roussel, impressionniste.
Ça a donné nom, oui, vous disiez?
C'est Léon Roussel, oui, Roussel.
Léon Roussel?
Je ne sais plus son nom.
Un critique qui a éreinté cette œuvre. Et qui a utilisé, je crois,
le mot impressionnisme,
mais avec mépris.
Avec mépris. Et pourquoi ce mot-là plutôt qu'un autre ?
Ça s'appelait impression.
Donc la toile s'appelle impression, car c'est une peinture sur toile. On a oublié de le dire, mais c'était assez évident. Voilà. Et parce que l'œuvre fait scandale, hein, je vous redis ce que vous dites, hein, ce critique va mettre en avant ce mot en parlant d'impressionnisme. Ça vous dit ? Parce que la toile s'appelle impression.
Mais sa plume, c'était...
C'était méchant.
Sa plume, ouais. C'était de méchanceté.
C'était méchant. Donc voilà un critique méchant qui, voyant cette œuvre, va, faire de l'esprit. Et puisque l'œuvre s'appelle « Impression, soleil, le vent », il va parler d'impressionnisme d'une manière ironique. C'est ça que vous dites, hein. OK ? Il la voit où, cette œuvre ?
Au salon. Au salon des indépendants.
Ça ne pouvait pas être au salon officiel. Il la voit quand ?
Eh bien, à 19h25.
Alors, avant de parler plus avant de tout ça, je vous donne quand même le petit cartel de l'œuvre. Hein. Impression sur les ventes, c'est que l'œuvre qui date précisément de 1872, donc c'est bel et bien les années 70, hein, donc 1972. Cette œuvre est conservée au musée Marmottan-Monet. Vous savez qu'il y a au musée qu'on appelait autrefois Marmottan. Il y a eu un legs qui fait que beaucoup d'œuvres de Monet sont entrées dans le musée dans les années 1950, dont cette œuvre, ce qui fait que on l'appelle aujourd'hui le musée Marmottan-Monet. Voilà. Donc, Impression Soleil Levant se trouve là. Je pense que la plupart d'entre vous ont vu le tableau. Hein,
qui est bien placé.
Qui est une œuvre effectivement très mise en valeur et qui est une œuvre effectivement importante. Et donc, vous avez dit pourquoi ? Parce que vous dites que c'est une œuvre qui a fait scandale, au moment où a été présentée, qu'un critique aurait ironisé sur ces impressionnistes qui font des impressions. Et important aussi, vous le disiez, parce que ce serait la première œuvre, entre guillemets, impressionniste. Hein, c'est ça que vous avez dit. Hein. Vous avez dit aussi que cette œuvre, elle avait été vue par le critique en question, non pas dans le salon officiel, mais dans le salon des indépendants. Ce serait quoi, ce salon des indépendants ?
C'est parce qu'ils ne sont pas acceptés.
Le salon des refusés.
Ok.
Donc un tableau. Et ça veut dire quoi, ce salon des refusés ?
Ils n'étaient pas acceptés dans le salon officiel, et donc ils avaient décidé qu'ils allaient créer leur propre salon.
Ok. Alors, justement, pour avancer là-dedans et voir dans quel contexte cette œuvre a été présentée, je vais vous montrer là quelques photographies et on va essayer de voir ce qu'elles nous apprennent. Je vous les remonte dans l'ordre inverse. Pourquoi je vous montre cet ensemble de photographies ? D'abord, ça.
C'est le lieu où a lieu l'exposition.
C'est le lieu où a lieu l'exposition. Un atelier ?
Non, c'est une ancienne usine. Non, c'est ça. C'est un lieu où on vend des peintures, des peintures, enfin de d'objets pour la peinture.
Okay.
De fourniture, voilà. Chercher.
Ce sera un magasin de fourniture pour la peinture qui aurait servi de lieu pour cette exposition. Mais vous m'avez dit tout à l'heure que c'était Salon des Indépendants. Donc Salon Indépendant avait lieu dans un magasin.
Bah, oui,
ouais.
Ils sont réunis.
Ils
sont réunis okay. À plusieurs.
Pardon.
C'est des personnes qu'on a vues après qui se sont réunies avec Monet pour pouvoir faire cette exposition.
Ok, donc, si je comprends bien, un certain nombre de personnes se sont réunies avec Monet pour faire ici, dans ce magasin de fourniture pour la peinture, hein, se sont donc réunies là pour faire ce salon des indépendants. Ça vous va, ça ?
Oui,
bien.
Même marqué, pas que
marqué de vêtements, manufacture de vêtements, à la ville de Sedan, manufacture de
salons,
de
Léon Foy, et ma expérience.
Alors, je précise quand même un élément, il n'est quand même pas tout à fait évident que la photo ait été prise au moment pile où a eu lieu l'exposition en question. Hein. C'est pas parce que le bâtiment existe que les éléments qu'il y a dedans. Les commerces s'y trouvaient au moment où l'exposition avait lieu. Okay, c'est une suggestion que je vous fais. Je suggère. Ok. Donc on aurait là le lieu de l'exposition. Très bien.
Un autoportrait.
Degas. Qui dit mieux? Caillebotte.
Non, c'est pas Caillebotte. Manet.
Alors pourquoi je vous montre ce qui serait un autoportrait de Degas, de Caillebotte, de Manet? Pourquoi?
Parce qu'il fait partie des indépendants
qui décident de faire une expo dans le bâtiment que je vous ai montré précédemment. Ce serait donc un des membres, pardon?
Un des impressionnistes,
un des indépendants en question.
Ouais.
Ok, ça vous va, ça?
Oui.
Bien. Bien. Moi, je vous laisse raconter votre petite histoire. Hein. Alors.
Renoir, Monet.
J'ai entendu Manet aussi.
Non.
Alors pourquoi je vous en ai déjà montré un, voilà un deuxième. Pourquoi est-ce que je veux un indépendant, mais lequel? En tout cas, ce serait un de ceux qui expose dans ce fameux local.
Voilà.
Ok. Bien. Non, c'est un tableau complet.
C'est un autoportrait.
Un autoportrait d'un de ces peintres-là. Vous m'avez dit Renoir, vous m'avez dit Monet, vous m'avez dit Manet.
Ou un de leurs amis.
Oui, peut-être. Qui peint un autre peintre, alors
oui.
Peut-être.
Ok.
Je récolte, hein, encore une fois.
Pareil,
mais quoi? Donc, encore un de ces indépendants?
Non.
Ah non.
Un marchand, plutôt.
Un écrivain, peut-être. En tout cas, pas un peintre.
Un poète, plutôt.
Un poète, un marchand.
C'est Verlaine.
Non.
On a le droit de parler quand même.
Celui qui leur a donné le bâtiment, celui qui leur a donné l'autorisation de faire ça.
Le propriétaire du bâtiment.
Voilà. Oui, parce qu'il faut une autorisation, il ne peut pas rentrer dans une pièce comme ça. Il est contracté.
Oui, on s'est impressionnistes pour des drôles de manières. Voilà. Donc un homme bien vêtu, mais dans une pose assez décontractée, peut-être un marchand, peut-être un poète, un écrivain, peut-être le propriétaire des lieux. Voilà plusieurs options. Hein? Un nom peut-être? Non.
Pas exagéré.
Pas exagéré non plus.
Par contre, ça, ce serait bien.
Et ça.
C'est celui qui achète des tableaux.
C'est celui qui achète des tableaux. Alors ça, c'est un autre marchand. Alors. C'est pas le critique.
C'est
un clinique, ça. Un artiste. Un musicien. Un scientifique. Voilà. En tout cas, ce que vous avez l'air de dire, ou que vous dites réellement, c'est que ces différents personnages sont tous... D'ailleurs, si je vous les passe... Un peu pour ça, hein, un peu beaucoup même, sont tous dans l'histoire. Hein. C'est qu'on a là des gens qui tournent autour de cette affaire. Hein. Bien. Ça vous va? Vous avez des choses à ajouter sur cette série avant qu'on aille plus loin?
Là, c'est rouge sur rouge.
Oui, oui, rouge sur rouge, oui. Ouais. Absolument. Donc, je résume. L'exposition des indépendants a lieu dans un local un peu particulier qui, à un moment ou à un autre, servira de magasin que nous avons vu au départ. C'est architecture un peu industrielle, hein, je vais vous dire au départ. C'est donc là que l'exposition des indépendants a lieu. Et nous avons vu là une série de 4 portraits masculins qui correspondent à des gens qui tournent autour de ce projet d'exposition. Alors, on a vu un portrait qui serait peut-être celui de Degas ou de Manet, ou un autre qui serait peut-être celui de Renoir ou de Monet. On a parlé de Caillebotte aussi. Le troisième était plutôt celui d'un poète, écrivain, marchand, enfin bref, un homme bien mis, mais en même temps un peu désinvolte. Hein. Et là, nous aurions un personnage qui serait peut-être un critique, n'est-ce pas, ou un artiste, voire un musicien, enfin bref. Des gens qui tournent autour de cette exposition, soit parce qu'ils en font partie, qu'ils y exposent des œuvres, soit parce qu'ils la regardent et qu'ils la critiquent. Ça vous va comme résumé tout ce que vous avez dit?
Oui.
Bien. On corrige les copies?
Oui. C'est pour ça. Alors.
On est bien assis. Nada. En fait, l'exposition en question, c'est l'exposition qu'on appellera entre nous, hein, pour faire simple, l'exposition des la première exposition impressionniste. C'était pas du tout son nom officiellement, hein, mais appelons-la comme ça entre nous, c'est là plus vite. Cette première exposition des impressionnistes a lieu en 1874, là, c'est-à-dire dans l'atelier Nadar. Nadar, c'est qui?
C'est un photographe.
Hein, ça n'est pas.
Il
n'a
pas toujours été.
Nadar n'a pas toujours été un photographe. Quels autres corps de Nadar avaient à son art? Il était peintre. Souvent, d'ailleurs, un certain nombre de gens qui ont travaillé la photographie étaient peintres. Daguerre, par exemple. Hein, Daguerre, qui a au musée de Chalon, là, au musée des Vendées, puis il y a un tableau de Daguerre, par exemple. Hein, vous savez. Donc Daguerre était photographe et peintre. Hein. Bon. Nadar a taquiné la muse, effectivement. Il s'est intéressé à d'autres choses, Nadar aussi. Pardon ? Oui, alors disons la pré-aviation, les histoires liées au ciel, notamment au ballon. Vous savez, ça intéresse beaucoup ces choses-là. Hein, l'histoire des ballons, ouais, ça dit rien de bien, il s'intéresse à l'espace, Nadar. Hein. Mais enfin, effectivement, son activité première, et je dirais professionnelle, c'est la photographie. Alors pourquoi est-ce que cette exposition, qu'on appellera entre nous encore une fois exposition des impressionnistes, a lieu chez Nadar? Pardon? Parce qu'ils étaient copains? Parce qu'ils étaient amis? Parce qu'il y avait de la place? Parce que
qu'elle peut être refusée ailleurs, c'est une façon de se démarquer.
Ouais. Ben, c'est plutôt effectivement ces deux dernières questions qu'autre chose. En fait, à vrai dire, Nadar n'avait pas forcément ni de grandes connaissances, ni particulièrement d'amitié pour les impressionnistes. Hein. Non, je n'ai pas... Il n'y avait rien pour... Enfin, on a voulu voir dans les expositions chez Nadar une sorte de militantisme. Hein. Nadar, ce photographe extraordinaire, hein, qui intéresse à la pré-aviation, est un militant des impressionnistes. En fait, pas plus que ça. Hein. Il se trouve que l'année précédente, dans l'exposition date de 74. Hein. La photo est de 70, je crois. Oui, c'est ça. L'exposition date de 74. Mais il se trouve que en 73, les ateliers Nada ont déménagé et sont mis dans une autre rue à Paris. Autrement dit, leur local du boulevard des Capucines est libre.
Ah, oui.
Et puisque notre groupe des impressionnistes, qui n'ont pas encore ce nom, hein, et qui ignorent qu'ils vont l'avoir d'ailleurs, cherche un lieu, les ateliers Nadar sont vides, pourquoi pas chez Nadar ?
Oui, c'est l'industrie.
Voilà. Hein, donc c'est pas du tout, contrairement à ce qu'on croit souvent, une sorte de militantisme de Nadar qui se dit « Oh, c'est pour les impressionnistes opprimés, je vais leur filer mon atelier pour qu'ils exposent. » Non, parce que l'atelier est libre, hein. Il est vide. En tout cas, les deux derniers niveaux, le deuxième et le troisième étage sont libres. Les entre-guillemets impressionnistes servent un lieu, cherchent un lieu. L'atelier Nadar est en partie disponible, pourquoi pas dans l'atelier Nadar. Nadar, enfin, il est d'accord, si vous voulez. Hein. Voilà. Mais de là dire, est-ce que c'est un militant de la cause impressionniste, il n'y a pas, vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est, je dirais, par un heureux hasard favorable, que Nadar peut prêter ses ateliers, puisque de toute façon, il ne les occupe plus. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Lui, c'est Degas. Vous aviez raison.
Non, mais il a un œil particulier.
Ouais. Degas, il a une tête spéciale.
Au niveau des yeux.
Absolument. Ouais. Ça, c'est Degas. Alors, pourquoi Degas ? Pourquoi je vous montre Degas ? Il était le seul à exposer dans cette expo ?
Non.
À votre avis, il y avait à peu près combien d'artistes qui exposaient dans cette exposition ?
Une dizaine.
C'est un peu plus que ça, c'est une vingtaine. Hein. Il y avait dans cette exposition, la première exposition d'imprimés, une vingtaine d'artistes qui participaient. Hein. Alors pourquoi je vous montre spécialement ce portrait de Degas ?
Particulièrement engagé.
Voilà, c'était effectivement un de ceux qui a été les plus particulièrement engagés. Degas, c'est un peu un de ceux qui met en place le projet, si vous voulez. Hein. Degas, c'est une des bonnes fées qui a mis en place le projet en question. Ok ? Ça, je vous l'ai montré. On en reparlera un petit peu plus tard. C'est Monet, pas Renoir. C'est marrant parce que tout à l'heure, vous avez dit, oh, c'est le portrait de Renoir. D'autres ont dit, mais non, c'est fait par Monet. En fait, c'est un portrait de Monet, pas Renoir. Hein ? Voilà. Alors, pourquoi je vous montre un portrait de Monet après celui de Degas ? Pardon ?
Il y était dans cette
mission. Il fait partie de cette vingtaine d'artistes, comme Degas, absolument. Mais pourquoi lui, particulièrement, et pas un des 20 autres ?
C'est lui qui a peint l'impression.
Alors, parce qu'il a peint l'impression, mais avant qu'impression soit présentée, on ne savait pas ce que ça allait donner, si vous voulez.
Peut-être qu'il avait déjà présenté les tableaux l'exposition officielle, au salon officiel, il a été rejeté, donc il est allé se jouer à nos autres.
Donc c'est un peu une victime, quoi.
C'est vrai.
Victime.
Non, c'était peut-être au contraire que celui qui, puisqu'ils étaient refusés, voulait montrer qu'ils pouvaient faire quelque chose de très bien et qui, au contraire, était plutôt militant dans cette
dans ce groupe. Oui, c'est un peu les deux. Il est vrai que Monet ne se faisait pas spécialement bien recevoir au salon officiel. Hein. Et effectivement, avec Degas, l'autre tête pensante, on dirait, de ce groupe, c'est effectivement Monet. Monet-Degas, c'est vraiment les deux qui vont, si vous voulez, mettre en place ce projet. Ce projet d'exposition chez Nadar, c'est un projet de Gamonet. Ça, c'est clair. Mais alors, pourquoi je vous en ai présenté un troisième ? Qui n'est autre que...
C'est Renoir.
Donc ça, c'est un portrait de Renoir par Basile. Hein ? Basile, vous le connaissez un peu ?
Oui.
Ouais. Donc, vous savez que Basile, c'est aussi un personnage de ce groupe. Il aurait bien aimé y exposer à l'exposition de 74. Sauf que, comme vous voyez, il était déjà mort. Hein. Basile est mort au moment de la guerre de 70. Hein. Basile, qui était un jeune artiste plein de talent et plein d'avenir, hein, a tenu beaucoup dans la guerre de 70 à s'engager, ce qu'il estimait que c'était nécessaire sur un plan moral, hein, et paf, il a été tué très vite.
Il y a un petit erreur dans les dates.
Pardon ?
Il doit y avoir un petit couac dans les dates.
Oui. Non, il y a un problème, effectivement. Encore qu'il est mort très jeune. Hein. Mais il a... la date de mort est bonne, la date de naissance ne l'est pas. Hein. Mais,
il avait une certaine fortune personnelle.
Oui.
Alors,
oui.
Il était...
Sa famille était montpelliéraine.
Absolument, la famille est une famille montpelliéraine. Vous savez qu'il y a à Montpellier au musée Fabre, hein, une grosse collection d'œuvres de Basile. Donc c'est un artiste vraiment très intéressant, très talentueux. C'est vraiment lui aussi, avec ses amis, un des ferments de ce groupe. Hein. Il a même hébergé Renoir au début de sa carrière. Enfin, vraiment, c'est un type très, très, très intéressant, Basile. Simplement, il s'est engagé, il a été tué très vite, ce qui fait qu'évidemment, il n'a pas exposé l'exposition 74, puisqu'il n'existait plus.
On visite toujours la maison.
Ah, c'est possible. À Montpellier ?
Non, pas à Montpellier, dans la région parisienne.
Ah oui, tout à fait. Absolument, tout à fait.
Il s'intéressait aussi, il avait un jardin superbe.
Oui, absolument. Oui, ça s'appelle...
Il y a un Y.
Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Oui, il y a la maison, la famille Basile, en région parisienne, absolument. Voilà. Et là, c'est un portrait de Renoir par Basile. Alors, Renoir, je vous le montre, pourquoi ?
Parce qu'il
fait partie également du projet. Donc, Renoir fait partie, avec les deux précédents, Degas et Monet, du projet. Alors, lui, il n'a pas forcément été, dès le départ, un des deux organisateurs de la chose. C'est plutôt, encore une fois, Degas et Monet. Degas et Monet qui, chacun, vont amener un peu leurs écuries propres. Hein. Et notamment, Renoir va venir dans l'écurie Monet, si j'ose dire. Hein. Mais ce qui est amusant, c'est que c'est Renoir qui va faire l'accrochage. Alors, vous savez combien il y avait d'œuvres à cette exposition ? On a dit une vingtaine d'artistes. Hein, bon. Une quatre-vingtaine d'œuvres, à peu près. Oui, c'était précisément... Alors, à vrai dire, précisément, c'est dire de le dire. Parce que dans le catalogue, il y a eu un catalogue. Je vais même vous montrer le frontispice tout à l'heure. Dans le catalogue, il y a 64 œuvres. Hein. Mais on sait que certaines n'ont pas été présentées et d'autres qui ne sont pas dans le catalogue l'ont été. Avec ça. Donc, mais c'est autour d'une 60-70 d'œuvres. Hein, voilà. Et c'est Renoir qui va s'occuper de l'accrochage. Hein, c'est quelqu'un d'assez précis, etc. Donc qui va s'occuper de l'accrochage de l'exposition. Hein. Et si je vous ai montré le dernier portrait, vous savez, tout en rouge, c'est parce qu'il s'agit de...
Nada.
Hein. Alors, vous savez que Nadar, c'est son nom de scène, si j'ose dire. Hein. Son vrai nom, c'est Tournachon. Hein. Félix Tournachon. Mais Félix Tournachon a un nom de photographe, un nom d'artiste qui est Nadar. Et voilà donc le portrait de Nadar, qui est encore une fois près de son lieu, mais en qui il ne faut pas voir le militant que l'on dresse souvent. Hein. Alors, je voulais vous montrer deux choses. D'abord, ça. Ça. C'est le catalogue de l'exposition. Qu'est-ce qui vous frappe en voyant la première de couverture, pourrait-on dire, du catalogue de cette exposition ?
Qu'il s'était constitué en société anonyme.
Oui. Ouais.
C'est très conventionnel.
Très conventionnel.
Ouais. Enfin, c'était quand même tout à fait étonnant.
Pardon ?
Première exposition.
Oui, l'idée, effectivement, c'est dans un
ventre.
Oui, absolument. Première exposition de... Vous avez raison, donc c'est la première d'une série que l'on espère nombreuse, peut-être. C'est une exposition donc, d'artistes qui, en fait, s'appelle, non pas du tout impressionniste, le mot n'existe pas. Hein. C'est nous qui... Nous savons maintenant, puisque ce nom va exister, l'exposition va ouvrir. On va voir, vous l'avez déjà un peu esquissé, dans quelles conditions. Mais pour eux, c'est une société anonyme de peintres, sculpteurs, graveurs, etc. Bien. Voilà, qu'est-ce que vous voyez d'autre sur cette première de couverture, pourrait-on dire ?
Ça durait qu'un mois.
Oui, ça dure un mois. Hein, du 15 avril, si ma mémoire est bonne, au 15 mai. 74, hein, ça dure un mois. Est-ce que les dates ont été choisies pour une raison particulière, à votre avis ?
En fonction de la liberté des lieux.
Pardon ?
En fonction de la libération des
lieux. Oui, qui était de façon assez libre. Hein. Donc ça aurait pu durer un peu plus, un peu moins, commencer avant ou après.
Par rapport aux salons
officiels ?
Par rapport ?
Au salon officiel ?
Oui, qui à votre avis,
Mais je ne sais pas s'il était avant ou après, ou ouais. En même temps.
Alors vous avez raison, c'est un peu du fait du salon officiel. Parce que vous savez, et vous l'avez déjà dit tout à l'heure, hein, qu'il y a priori chaque année à Paris, le salon. Le salon avec un grand S, hein, qui n'est pas la petite expo de 60 œuvres. Hein. Le salon, c'est des centaines et des centaines d'œuvres, hein, plusieurs milliers souvent, hein, et qui a lieu tous les ans à Paris. Et le salon avec un grand S, c'est un salon officiel. Hein, c'est un salon organisé par les autorités, je dirais, de l'État, qui a pour but de rassembler des œuvres sélectionnées par le jury du salon et qui, en gros, montrent des peintures, sculptures, gravures, dessins, aquarelles, etc., qui ont pour but de sélectionner le meilleur de la production artistique de l'année précédente. Hein. Donc le salon officiel est un grand événement. Hein. Et effectivement, vous avez raison, l'exposition ne s'est pas ouverte au même moment que le salon parce qu'il n'y aurait eu personne. Hein. Elle a été ouverte 15 jours avant. Hein. Le salon ouvrait, alors je ne sais plus si c'est fin avril ou début mai, en tout cas 15 jours après le début de cette exposition-là. Ce qui fait que les critiques pouvaient aller voir l'exposition avant de se précipiter au salon. Voilà. Donc effectivement, ce n'est pas un hasard. Vous remarquez aussi qu'il y a des horaires d'ouverture assez marrants. Oui, c'est ouvert de 10h le matin jusqu'à 6h le soir. Bon, ok. Donc 10h, 18h. Mais le soir de 8h à 10h, c'est-à-dire de 20h à 22h.
Comme un spectacle.
Voilà, c'est assez marrant ça. C'est effectivement un peu inattendu, mais ça rappelle effectivement l'idée de spectacle qu'on va voir le soir. Voilà, bien. Quel a été, d'abord peut-être, parlons en termes de public, quelle a été la réception de cette exposition chez Nadar en 1974 pendant un mois? À votre avis, qui est venu? Combien de personnes? Les gens en ont pensé quoi? Comment ça s'est passé?
Des étudiants.
Des étudiants?
Tous leurs amis.
Les critiques. Les marchands.
Leurs marchands.
Des curieux.
Oui,
à votre avis, je ne sais pas, à vue de nez comme ça, vous diriez combien de personnes à peu près? Par jour, peut-être, par exemple. 500?
Je pense qu'il ne devait pas être nombreux.
Pas grand monde.
Une centaine
par jour. Ouais. 50-100. Bon.
Pas beaucoup.
À votre avis, un lieu comme le salon, alors je ne sais pas exactement pendant combien de temps durait le salon, mais ça doit être à peu près du même genre, un mois et demi.
C'était où? C'était où?
Alors, ça dépend des lieux. Hein. Le salon, à cette époque, il était ce qu'on appelait le palais de l'industrie, hein, qui était un lieu qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était un lieu assez grand d'architecture industrielle, métallique, où on pouvait avoir de la place et mettre pas mal de choses. Hein. À cette époque, ça a été là, dans ces années 70. Hein.
Et les ateliers Nadar, ils n'existent plus non plus, boulevard de Capucines?
Eh bien, je ne sais pas, je crois que si.
Ah, si, ils existent.
Je crois que ça existe encore.
C'est une école d'art.
C'est une école d'art. Parce que je suis passé devant l'autre jour, et je crois... Mais c'est un peu différent de ce que vous voyez là, mais vous, on reconnaît bien. À votre avis, donc le salon, qui grosso modo. Parce qu'on connaît la fréquentation à la fin du salon et à la fin de cette exposition. Et à votre avis, le salon officiel, il peut accueillir combien de personnes?
Oula.
Donc du monde. Pardon?
500
par jour. Ouais. On sait que le salon de 1874 a reçu 400 000 visiteurs. 400 000, hein. Ça commence à faire. Hein. Alors que l'exposition qui nous intéresse, elle a reçu 3500 visiteurs. Hein, c'est une moyenne de 150-170 par jour. Donc, à la fin, c'est pas mal, et c'est pas beaucoup. Enfin, c'est à la fois pas mal, parce que voilà, personne ne les connaît. Hein.
C'est la
première fois qu'a lieu une exposition des impressionnistes, entre guillemets. Donc voilà, finalement, c'est pas très connu, pas très étonnant, qu'il n'y ait pas grand monde. Hein. Ce qui veut dire quand même que 3500 personnes pour une exposition qu'aujourd'hui tout le monde voudrait voir. Je veux dire qu'on irait à genoux la voir. Imaginez quand même. Hein. La première exposition d'un des mouvements qui va tout simplement bouleverser la peinture moderne, c'est extraordinaire. Enfin, quand on y pense aujourd'hui, on se dit, il y a ça, on tout de suite le train, quand on fait la peinture. On ne peut pas réfléchir. Quoi, hein. Mais à l'époque, personne n'a vu. Personne
ne sait pas.
Ah bah voilà, on ne connaît pas, on ne sait pas. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous disiez leurs amis, les chrétiens. Bah, pas tant que ça, finalement. Ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de gens vont se dire, mais ils y sont allés, parce que quand même, entre artistes, n'y vont pas. Vous parliez de Verlaine tout à l'heure. Alors lui, il n'y va pas parce qu'il est en prison. Un peu difficile. Rimbaud n'y va pas davantage que lui, il est à Londres. Un peu compliqué. Hein. On pourrait se dire, bah tiens, Zola y va. Hein. Puis en plus, il fait un article. Comme fait Zola, c'est un article. Le problème, c'est que Zola, il est interdit de presse à ce moment-là. Hein. Vous savez qu'il aura, au fur et à mesure de son existence, un ordre de position qui ne vont pas lui faire que des amis. Comme on le sait trop bien. À son détriment, d'ailleurs. Hein. Donc Zola... On ne sait pas s'il est allé ou pas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas écrit sur l'expo, parce que de toute façon, il a peut-être écrit. Mais, enfin, d'ailleurs, non, il n'a pas écrit. Mais, si vous voulez, s'il l'a vu, il n'a pas pu en rendre compte, parce que de toute façon, il ne pouvait pas. Donc ça, c'est réglé. Hein. On pourrait penser que Victor Hugo, qui n'est quand même pas le premier venu, hein, mais qui, dans le genre défense des la veuve et l'orphelin, se pose là, hein, qui est revenu de son exil, qui est à Paris à ce moment-là, qui écrit même ce bouquin de l'art d'être grand-père, vous savez, ce bouquin. Eh bien, il n'y va pas non plus. Hein. Et on pourrait comme ça aligner, Flaubert n'y va pas, plein de gens n'y vont pas. Goncourt, Edmond de Goncourt, qui est encore vivant à cette époque, il n'y va pas. Hein, alors que dès qu'il y a une toile quelque part, il en fait quatre pages. Hein. Donc plein de gens n'y vont pas, plein de gens importants. Hein. Donc en fait, non seulement elle est peu vue, mais beaucoup de gens, pas très importants, enfin, très importants, pardon, à l'époque, hein, qui sont un peu le Gotha de l'intellectualisme français du temps, n'y viennent pas non plus. Donc vous voyez, c'est un peu un... ça fait pchit, pour tout dire. Ça fait un peu un flop. Hein. Ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que dans ces exhibitions, il y a quand même des gens qui sont allés, il y a eu un certain nombre de critiques, et de critiques qui publient dans les journaux, hein, dont l'un d'entre eux est celui-ci. Alors voilà une œuvre par Nadar, hein, vous savez, au départ c'est toujours le nom de l'artiste, hein, et ce portrait représente Louis le Roi. Hein. Donc ça c'est justement une photographie de l'atelier Nadar représentant Louis le Roi. Louis le Roi est donc un critique. Il y a eu en tout une quinzaine d'articles sur l'exposition, on n'a pas eu 3000, hein, et une quinzaine d'articles de presse. Vous voyez, c'est pas non plus colossal. Hein. On a eu beaucoup de plus pour le salon, bien sûr. Et l'article qui retient le plus l'attention, c'est celui de Louis le Roi. Et pourquoi ?
Ah ben, c'est lui qui a pris les impressions.
Voilà. C'est lui, effectivement, qui, le premier, va inventer le mot impressionniste. C'est-à-dire que lui, dans son article, qui paraît 10 jours après l'ouverture, le 25 avril, titre son article « L'exposition des impressionnistes ». C'est à lui qu'on doit ce mot. Hein, partant du titre de la toile de Monet, il appelle son article « Expression des impressionnistes ». Et le mot est né. Il est tout le dire que le roi n'imaginait pas du tout la fortune qu'aurait ce mot. Hein. Quand il fait son truc de son impressionniste, avec ses petites mains dans un coin de son atelier de journaliste, il ne pense pas du tout que ce nom va devenir un nom fondamental de vraiment qu'un des courants majeurs de la nouvelle peinture. Ben, c'est ce qui va se passer. Et alors, contrairement à ce qu'on pense, et qui est toujours colporté, c'est pas du tout un article méchant, contrairement à ce qu'on pense. Pas du tout. On lit partout que ça a été un brûlot épouvantable, qu'il a... Pas du tout, du tout, du tout. C'est un livre plutôt sympathique, plutôt gentil, même. Hein. En fait, tous les... moi, je les ai lus, les 15 articles. Quelquefois, il y a quelques mots, simplement, sur l'impression, etc., et même sur l'exposition. C'est des articles assez sympas, hein. Bon, ils ne sont pas toujours dithyrambiques. Ce n'est vraiment pas des articles méchants. Hein. Vous savez, il y avait eu, à partir du milieu du 19e siècle, il existait à Paris le Salon des Refusés. Le Salon des Refusés, dont vous aviez, c'est un peu autre chose. Vous savez, ce salon officiel dont je vous ai parlé, hein, dont vous allez parler vous-même, hein, est quelque chose qui avait lieu chaque année. Mais à partir du milieu du 19e, ceux qui sont refusés au salon en ont ras-le-bol, si vous voulez. Et ils vont créer un Salon des Refusés. Et il se trouve que Napoléon III lui-même, quand il arrive au pouvoir, va valider ce salon des refusés. Ce que vous avez chaque année, le salon officiel des chambres des refusés, qui est un salon de refusés officiels, ou officiellement de... Bref, vous voyez le truc. Et quelquefois, le salon des refusés, où Courbet expose, etc., c'est la Kalachnikov. C'est épouvantable. Hein. Les artistes se font mais éreintés, c'est l'horreur. Hein. Là, pour sélection des impressionnistes, pas tellement. Les 15 articles sont assez sympathiques. Bon, quelquefois, il y a des petites piques. Mais enfin, bon, je vous montrerai des caricatures tout à l'heure. Il y a eu des choses assez marrantes, mais ça a été plutôt bien reçu. Et par exemple, le roi dit pas vraiment mal. Hein. Non. D'ailleurs, le roi, il a fait un article sous une forme assez marrante. Je vous raconte en deux secondes. Hein. Il a fait un article où il imagine qu'il visite l'exposition avec un ami à lui. Il y a lui et son ami. Il s'appelle Monsieur Vincent. Hein. Donc il y a le roi et Monsieur Vincent qui visitent l'exposition. Hein. Et le roi, au contraire, lui, dit des choses bien sur les œuvres, alors que son copain, Monsieur Vincent, lui, dit des choses terribles. Vous voulez que je vous en lise un petit passage? Ouais. Je pensais pas le faire, mais bon. Je l'ai amené au cas où.
Il est bien.
Alors. Celle-là. Non, ça doit être. C'est où ? Non, on peut le faire comme ça, ça devrait aller. Oui, c'est là. Voilà. J'enlève mes lunettes parce qu'on ne voit rien. Donc, bon, ça nous prend un peu de temps, mais ça ne vous ennuie pas, ça ?
Non.
Je trouve que c'est intéressant. Hein. Donc, une fois, c'est le roi qui écrit, il fait comme s'il se baladait dans l'exposition avec M. Vincent, qui est son copain. Bien. Le pauvre homme déraisonnait. Ça, c'est le roi qui parle de Vincent. Le pauvre homme déraisonnait ainsi, assez paisiblement, et rien ne pouvait me faire prévoir l'accident fâcheux qui devait résulter de sa visite à cette exposition à tout craint. Il supporta, même sans avarie majeure, la vue des bateaux de pêche sortant du port de M. Claude Monet. Ça, c'est un autre tableau présenté par Monet dans l'exposition qui représente la mer avec des tableaux qui sortent du port. Un tableau un peu mi-figue, mi-raisin. Visiblement, M. Vincent n'en fait pas un plat. Bien. Peut-être parce que j'arrachais à cette contemplation dangereuse avant que les petites figures délétères au premier plan eussent produit leur effet. Malheureusement, j'eus l'imprudence de le laisser trop longtemps devant le boulevard des Capucines du même peintre. Il se trouve que dans la même exposition, Monet présente, en même temps qu'Impression soleil levant, un tableau qui représente le boulevard des Capucines. Et dans ce tableau, on voit, qui est pris de haut, on voit le boulevard des Capucines avec des tout petits personnages mais qui sont des taches. Et ça, manifestement, M. Vincent, il ne se porte pas. Alors voilà ce qui va se passer. Ah, ricana-t-il à la Méphisto, hein, est-il assez réussi, celui-là? En voilà de l'impression, où je ne m'y connais pas. Hein. Seulement, veuillez me dire ce que représentent ces innombrables guichettes noires dans le bas du tableau. Hein. Et M. Vincent, il n'est pas très fan. Là. Alors, il y a l'autre, le roi, qui répond. Mais, répondis-je, ce sont des promeneurs. Alors, je ressemble à ça quand je me promène sur le boulevard des Capucines. Sang et tonnerre, vous moquez de moi à la fin. Mais je vous assure, M. Vincent et l'autre le couple, mais ces taches ont été obtenues par les procédés qu'on emploie pour le badigeonnage des granites de Fontaine, et pif, et paf, et vli, et vlan. Va comme je te pousse. C'est inouï, c'est effroyable. J'en aurai un coup de sang, c'est sûr. Hein. Donc vous voyez que celui qui dit du mal, c'est pas le roi. Hein.
C'est le roi
qui écrit, mais le roi, c'est un journaliste. Un vrai journaliste, il n'écrit pas ce qu'il pense, il écrit ce qu'il entend des autres. Donc en fait, ce que l'on voit, c'est que le roi, dans une forme qui est d'ailleurs une forme journalistique que l'on aime bien au 18e et encore au 19e, en gros, il essaie de montrer les opinions qu'il entend, si vous voulez, dans cette espèce de jeu, de dialogue entre lui et un ami sans doute complètement inventé, si vous voulez, hein, à qui il fait dire ce qu'il entend d'une certaine manière. En fait, on a là une sorte, enfin, un article qui montre le, si vous voulez, les dialogues. Alors, c'est pas tout à fait fini. Je jetais un coup d'œil sur l'élève de Bertin. Il se trouve que ce Vincent a été l'élève de Bertin. Bertin, c'est un peintre paysagiste du début du 19e, assez classique, dirons-nous. Et Vincent aurait été l'élève de Bertin. Donc, je jetais un coup d'œil sur l'élève de Bertin. Son visage tournait au rouge sombre. Une catastrophe me parut imminente. Et il était réservé à M. Monet de lui donner le dernier coup. « Ah, le voilà !» s'écria-t-il devant le numéro 98. Le numéro 98, c'est Impression soleil levant. Hein. « Je le reconnais, le favori de papa Vincent. Hein. Que représente cette toile? Voyez au livret. « Impression soleil levant », répond le journaliste. « Impression, j'en étais sûr. Je me décide aussi, puisque je suis impressionné. Il doit avoir de l'impression là-dedans. Hein. » Et quelle liberté, quelle aisance dans la facture. Le papier peint à l'état embryonnaire. et encore plus fait que cette manière-là. Donc voilà ce qui concerne le tableau en question. Vous voyez qu'il y a vraiment plus grave. Hein. Donc, vous voyez que, donc une fois, hein, le roi fait jouer un dialogue entre lui et un ami. Le roi, d'un côté, est assez gentil. Enfin, bon, l'autre s'excite pour rien. Hein, de manière un peu ridicule, hein, parce que le façon est un peu ridiculisé, même. Hein. Donc, finalement, on a là un article assez doux. Hein, on peut pour dire que ce soit un grand brûlot. Hein. Donc, finalement, on a... Vous voyez, souvent, on fait l'expression des impressionnistes, une expression où les impressionnistes vont faire un tollé épouvantable. Dans un... En fait, ce n'est pas le cas. Hein. Ça a été assez pépère, si j'ose dire. Hein. Je ne dis pas que ça a été bien reçu, de toute façon, peu de gens l'ont vu. Hein. Donc, il n'y avait pas de raison de faire un tollé épouvantable. Mais il faut un tout petit peu modérer cette vision un peu romantique que nous avons, hein, d'artistes absolument maudits qui exposent dans un Paris, qui le rend entièrement hostile. Ce n'est pas du tout ça. C'est une exposition que peu de gens voient. Une exposition qui, finalement... et pas du tout mal reçu par la critique, qui quelquefois est un peu critique. Mais si la critique n'était pas critique, alors là, nous voyons. Hein, voilà. Une des choses que la critique va tenser, la seule chose qui ne leur plaît pas, c'est la tâche. Le fait qu'il y ait des... Vous savez, les lichettes dont ils parlent. Hein, ça, c'est un truc qui ne plaît pas. Hein. Alors, je voudrais maintenant qu'on a vu ça, qu'on la visite, cette exposition des impressionnistes. Alors, on ne va pas la visiter avec des photos, parce que personne n'a pris de photos. Des photos du salon, on en a. Mais des photos d'exposition des impressionnistes, non. Parce que personne n'a pris de photo, puisque c'est un événement secondaire. Tout le monde s'en fiche, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, on peut la visiter en reconstituant, en partie, on ne va pas montrer les 60 œuvres, hein, une partie de celle-ci. Alors, je vais vous montrer les œuvres, vous allez me dire un petit peu de qui elles sont et ce que ça vous dit. Alors, ça, Degas, absolument. Hein. Alors, à chaque fois, j'ai mis un petit carré blanc pour éliminer les signatures, parce que je me suis fait avoir souvent. Mais là, j'ai fait gaffe. Hein. Voilà. Donc effectivement, qu'est-ce que, en deux mots, qu'est-ce qui peut surprendre, étonner, voire un peu exciter dans un tableau comme celui-là ?
Le cadrage.
Pardon ?
C'est presque une photo.
Oui, mais voilà, absolument. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un cadrage qui est assez photographique, un cadrage très surprenant, puisque le sujet à droite hein, est complètement coupé par le bord du tableau. On a l'impression d'une photographie ratée. Hein. Et vous voyez que le sujet, parce que c'est un sujet qui s'appelle « Course en province ben », il est là-bas dans le fond, à peine visible. C'est vraiment une photo ratée de chez ratée. Quoi. Mais en fait, c'est bien le but de Degas, quoi, hein, de montrer une sorte d'instantané. Et évidemment, un tableau comme ça surprend, mais finalement, pas tant que ça, entre guillemets. Et ça, une œuvre de qui ? Avant de dire de qui, est-ce que vous auriez à dire quoi sur cette œuvre ?
Exaltation des usines.
Oui. On est finalement dans la même idée que l'impression sur les livres. Oui. Absolument. Avec l'exaltation des usines, mais quoi aussi ?
Les couleurs.
Les couleurs, et à cause de quoi ? Ou grâce à quoi ? Voilà. C'est la même chose que pour Impression sur les vivants, c'est que c'est le lever du soleil. Donc il y a, vous savez, cette boule rouge et puis les frisotures dans l'eau. Hein. Là, ben, c'est pareil, il y a un effet de lumière. On est peut-être au crépuscule, au contraire. Nous, c'est l'effet de soleil. La question de l'atmosphère, toujours. Hein. Voilà. Vous avez une idée du peintre ? Non ? Compliqué ? Alors, il est vrai qu'il y a des peintres connus, il y en a qui le sont. Hein. Mais là, c'est toujours pareil. Vous voyez, on fait l'expression en impression, dans l'expression en impression, il n'y avait que des chefs-d'œuvre d'artistes illustrissimes. Ben non. Il y avait en effet quelques œuvres très célèbres d'artistes bien connus, puis des tas d'œuvres beaucoup moins célèbres d'artistes beaucoup moins connus. Et c'est le cas pour celui-là. Alors, on verra qui c'est tout à l'heure. Berthe Morisot, le berceau. Elle fait partie de quelle équipe, Berthe Morisot ? L'équipe Degas, l'équipe Monet ? Puisque je vous ai dit, hein, Manet. Donc ça serait plutôt Manet qui l'aurait amené. Pourquoi d'ailleurs ? Elle a épousé le frère de Manet, enfin le frère d'Edouard. Hein. C'est bon, tout à fait. Bien, donc c'est quelqu'un qui serait venu avec Manet dans l'exposition. Ok ? Ouais. Pardon ? Comme sujet, vous avez une idée ?
Ou c'est sur la scène ?
La scène ?
La scène dans la région.
La scène. La scène. Ok. Donc sans doute la scène. Et vous avez une idée peut-être d'un artiste ?
Oui, oui.
Château Gaillard.
Enfin, dans ce quoi ?
Ok. Donc une scène normande.
Oui.
Hein ?
Moi, ça, c'est... Oui.
Ok ? Bien. Pas d'idée d'artiste ? Toutes ces œuvres étaient dans l'exposition. Hein. Regardez-les bien, parce que vous n'allez pas la revoir d'ici demain. C'est la première fois que vous les voyez, peut-être la dernière.
Hein.
Renoir, oui. La fameuse loge. Hein.
Où est-on ?
Pas d'idée ? Bon. La loi, cette fois ? Voilà, le fameux coquelicot de Monet. Donc vous voyez que dans cette expo, il y a un certain nombre d'œuvres un peu célèbres et qui vont faire leur chemin. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui peut déplaire ou plaire dans un tableau comme celui-là, à l'époque ? Voilà. Ça, typiquement, les taches, c'est le truc qui va... Il y a deux mots ou deux sentiments qu'on va revenir dans les critiques à cette époque. C'est un, ce problème des taches. Vivement, le fait d'avoir des taches comme ça, vous avez vu, M. Vincent Guillaume, c'est un papier peint. Hein. Ça passe pas, l'histoire des taches. Hein. C'est un truc qui ne va pas passer. Les critiques, souvent, là, ils disent, bon, c'est bien, etc. Mais les taches, non, il ne faut quand même pas aller trop loin. Hein. Ça, c'est un truc qui ne va pas. Puis, la deuxième chose qu'on voit, mais récurrente dans les articles, c'est cette idée d'impression. Vous avez entendu, M. Vincent, il n'arrête pas de dire impression. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez entendu ce que je vous ai lu. Hein. C'est-à-dire que, vraiment, le mot que Monet a trouvé pour son tableau, il fait mouche. Hein. Non seulement le roi le prend comme titre son article, mais chez le roi, mais chez d'autres. Le mot impression revient très souvent. C'est-à-dire que la critique comprend quel est le projet des impressionnistes. Finalement, c'est quoi le projet des impressionnistes par rapport aux peintres officiels de l'époque ? C'est quoi ? Quand ils présentent ça, l'idée, c'est quoi ? Par rapport à la peinture officielle du temps ? Le réel. Oui, pardon ?
De ne pas donner tout à fait la réalité.
Oui,
de
faire alors.
À l'imaginaire.
Alors, j'entends un peu les deux choses. J'entends à la fois le réel, mais pas tout à fait le réel.
Le ressenti.
La lumière.
L'émotion.
L'émotion. Alors, quand vous parlez effectivement de sentiment, d'émotion... Je crois que c'est exactement ce qu'il y a derrière le mot impression, d'ailleurs. Hein. Et quand vous disiez tout à l'heure, c'est réaliste, mais ça n'est pas tant que ça, je crois que c'est un peu la même chose. Dans Impression, soleil, le vent, on est devant une réalité, mais qui en fait ne ressemble pas tant que ça à la réalité. Enfin, voilà. Donc, je crois que vous avez raison dans les deux cas, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de montrer plus des sentiments, des idées, des impressions, d'une part, et de le faire à travers des tableaux qui, effectivement, sont des tableaux de réalité. Il ne s'agit pas de nous montrer Andromède ou la Vierge, il s'agit de nous montrer vous et moi, hein. Dans des vues donc réalistes, mais qui, à force d'être réalistes, finalement, détournent un peu cette réalité-là. En tout cas, effectivement, Monet et Coquelicot. Autre œuvre. Degas. Une danseuse de Degas. Ok, très bien. C'est une manière à la fois de visiter l'expo et de voir qui y a participé.
Il y a des inondations.
Oui. Des inondations, ils aiment beaucoup représenter les inondations, vous impressionnez. Attention pour Marlitt. Ah, très comme le Barbizon, oui. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites là, parce qu'on voit bien l'affiliation qu'il y a. Et l'affiliation avec qui en particulier ? Quand on parle de l'école de Barbizon, on pensait à qui ? Corot. Hein. Corot qui est un peu le grand-père, un peu le fanion, le fanal de toute cette équipe. Hein. Oui, ok. Une idée de l'auteur ? Bon. Près 18e ? Ah, c'est là que les Athéniens s'atteignaient. Hein. Bon, ben je passe, hein, parce que je sens pas. Ah, c'est la Normandie, ça. C'est la Normandie. De qui alors ça ? Boudin. Boudin, Manet. Monet. Oh, vous les citez tous, hein. Pardon ? Hein, Caillebotte. Ouais. Bah, Caillebotte.
Là, c'est la couleur d'une huître.
La couleur d'une huître nacrée. Hein. Bien, bah, écoutez, on lèvera les copies tout à l'heure. Hein.
Les pommiers.
J'ai entendu. Oui, les pommiers Pissarro. Pissarro. Bon. On continue la visite. Vous ne me prenez pas de coup de sang pour l'instant, ça va.
Caillebotte,
justement, dont on disait qu'il n'était pas présent. Bon, on enchaîne. Vous avez moins à dire que M. Vincent. Hein.
Bonnet.
Pardon. Eh ben voilà, c'est un bon je vous parlais tout à l'heure. Voilà, le tableau devant lequel M. Vincent s'étrangle en disant « C'est quoi ces petits ballons ?» Et le roi lui dit « Bah, ce sont les passants, ils vont les cavaliers. » Et l'autre dit « Ah bon, je ressemble à ça, quand j'étais sur le boulevard des Capucines, vous vous rappelez, hein ?» Bon, voilà, c'est effectivement « Vue du boulevard des Capucines » par Monet. Manet. Ouais. Bon, ça commence à nous donner un profil d'exposition. Hein. Vous avez cité Manet, vous avez cité Monet, vous avez cité Pissarro, vous avez cité Degas, vous avez cité Boudin. On commence à voir un peu le profil, là. Hein. Il y a des gens qu'on n'a pas trop cités encore.
Bon.
Pas Bertrand Rousseau, vous l'avez vu, puisque vous avez vu le berceau. Exact.
On n'a pas cité Millet encore.
Millet, on n'a pas cité.
Ça pourrait être Millet, ça.
Donc peut-être un autre Millet qui serait qui alors par rapport à tous ces impressionnistes?
Un peu le père.
Un peu le père, comme Corot, dont vous parliez tout à l'heure. Donc l'exposition serait sous les auspices de Corot, de Millet peut-être. Je ne les passe pas tous, mais j'ai fait une sélection d'une 20-25.
C'est une peinture à l'huile.
Pardon ?
Une peinture à l'huile ?
Oui.
Parce que ça a l'air d'aquarelle.
Oui, oui, mais la vue projetée faiblit par rapport à la réalité. Non, c'est une peinture à l'huile, qui est beaucoup plus dense qu'elle imagine. Une idée, Monet ? Oui, on dirait un peu impression, mais en plus... Ça représente Baudelaire. Un portrait de Baudelaire.
Et une gravure. Le salon était aussi dit graveur.
Exactement. Vous l'avez vu tout à l'heure. Hein. Il était dit peintre, sculpteur, graveur. De toute façon, il n'y avait pas de gravure, ben, vous ne pouvez plus lire ça. Il y avait effectivement des gravures, notamment celle-là. Donc le portrait de Baudelaire, par qui on ne sait pas. Par Nadar. Daumier. Là, c'est impression soleil couchant. Hein. Et même lune, oui. Impression clair de lune.
Corot a fait des choses comme ça.
Corot, peut-être.
Le petit encart est
court. Ça, c'est mon carré blanc à moi. OK. Boudin, celui dont on aurait peut-être déjà vu quelque chose tout à l'heure. Hein, mais, hein. Ok. Pissarro. Oui, Pissarro, on a vu une chose tout à l'heure. Hein. Vous avez montré le verger fleuri. Hein. Ok.
Manet.
Il ne faut pas qu'elle discute trop, oui. Donc, une repasseuse de Manet. Corot. Qui décidément plane sur l'exposition, d'une certaine manière. Hein.
Comment ça t'appelle ça ?
Oh,
ouais.
Ah, oh là,
oula, c'est ça, c'est marrant aussi. Hein.
Ah, c'est qui ça ? C'est une peinture à l'huile. Donc quelque chose de très onirique en tout cas. Hein. Très onirique.
C'est Olympia,
c'est de qui ?
Manet.
Donc ce serait une œuvre de Manet, peut-être. Une autre version d'Olympia. Non. Bon. Moi, je ne fais que répéter. Celui-là, il vous aura fait discuter, en tout cas. Plus que d'autres. Bien. Une sculpture. Oui, pour tout vous dire, dans l'exposition, il y avait un sculpteur, il n'y avait pas 50. Hein. Pardon ?
Rodin.
Bon, vous aurez essayé. Le tout, c'est de participer. Bien, on relève les copies. Bien. Parce que décidément, bon, cette exposition, on en a, à part le catalogue, hein, et dont je vous ai dit qu'il était un peu sous caution, mais... Voilà, on n'en a aucune photo. Donc la seule manière d'essayer de voir ce qu'il y avait, c'est de faire ce que je viens de vous faire. Hein. Et là, vous avez, de manière liminaire, on a vu qu'un tiers des œuvres, hein, vous avez une idée de ce qui était visible dans cette exposition du boulevard des Capucines à partir d'avril, du 15 avril 1974 à Paris, la première exposition impressionniste. Hein. C'est important, je trouve, de le faire parce qu'on dit tellement de choses et pas très juste sur l'expo que c'est vraiment important de voir la réalité, si vous voulez. Hein. On déboise beaucoup, on dit encore une fois qu'il a été très mal reçu, que ça a été un scandale. Pas du tout, personne n'en a parlé, en gros. Hein. C'est donc pas du tout un scandale. On dit que Nadar, qui est militant, pas du tout. Nadar prête un truc parce qu'il n'y a rien dedans. Voilà. Vous voyez, il faut vraiment mettre les choses en place. Et maintenant, voir qui y avait dans l'expo et avec quelles œuvres. Alors, regardons à nouveau. Il y a d'abord un certain nombre d'artistes connus, que vous avez, pour la plupart, bien identifiés. Hein. Il y a Degas, hein, les fameuses courses en province, très, très beau tableau, très célèbre, voilà, qui est donc exposé. Il y a l'arpasseuse. L'arpasseuse, c'est Degas. C'est pas du tout Manet. Hein. C'est Degas. Hein. Alors, très, très intéressant pastel. Vous voyez comment Degas fait des choses en ne couvrant pas du tout toute la feuille. Hein. Il joue avec la transparence. Hein. Degas. Et puis l'autre œuvre de Degas, ben vous l'avez bien identifié. Hein. Alors, ça, c'est, vous rappelez que Degas, c'est un de ceux qui avait initié le projet. Hein. Ensuite, il y a Monet. Alors là, vous avez tout trouvé, hein, je crois. Ce Monet-là, bien sûr. Celui-là, hein, l'ouvert des Capucines. Là même où a lieu l'exposition, d'ailleurs. Hein. Hein. Et ça, parce que ça, c'est le Monet, justement. Hein. C'est pas le Monet qu'on connaît le mieux, d'ailleurs. Hein. C'est le Monet du déjeuner sur l'herbe, pas le Monet, hein, le Monet. Monet aussi fait un déjeuner sur l'herbe. Hein. Et donc, voilà, c'est ce Monet-là, le Monet assez primitif, si j'ose dire. Hein. Il y a 28 ans. Voilà, mais intéressant, avec le cadrage, etc. Enfin, je n'épilogue pas. Et puis, il y a Renoir. Ça, vous l'avez pris pour Degas, c'est Renoir. C'est une œuvre de Renoir. Il n'y a pas que Degas qui a fait des petites danseuses. Hein. Donc, c'est une danseuse de Renoir. Ouais. Ah bon. Et puis, évidemment, la fameuse loge hein, que vous connaissez. Hein. Et puis, Berthe Morisot, hein, qui fait en fait partie des gens qui ont été amenés par Degas, en fait. Degas connaissait Berthe Morisot, c'est par Degas que Berthe Morisot a été approchée et a présenté plusieurs œuvres, dont celle-ci et celle-là. En fait, ça, c'est Berthe Morisot. Rappelez-vous, vous trouviez que c'était très Degas, vous aviez raison d'ailleurs. Hein. Il y a une atmosphère très Degas là-dedans. Hein. Et donc, on a vu hein, que, pas très Degas, très Manet, pardon. J'ai dit Manet. Évidemment, il y a une atmosphère très Manet, hein, mais encore une fois, Manet, c'est le beau-frère de Bertrand Morisot. Voilà. Parmi les artistes connus, il y a effectivement Boudin, vous avez bien vu, hein, bravo. Bravo, c'était pas évident ça. Hein. Voilà, Boudin. C'est un des pères, effectivement, de l'exposition, un peu comme Corot, si vous voulez. Hein. Corot, pour les impressionnistes, c'est un peu un de leurs étoiles, on peut dire. Mais Boudin, plus jeune que Corot quand même, est un artiste qui aussi fait partie des gens pour qui les impressionnistes ont un grand intérêt. Hein. Et vraiment, pour eux, c'était important d'avoir Boudin parce que c'est un peu leur père. On l'a vu tout à l'heure. Il y a Pissarro. Ça, c'est Pissarro, extraordinaire tableau, hein, les gelées, et qui est un tableau de, ben donc, de Pissarro. Vous voyez bien comment les taches pouvaient agacer, effectivement, parce que Pissarro, de côté taches. Voilà. Et là, vous l'aviez bien vu, c'est Pissarro aussi. Par contre, il y a un artiste que vous n'avez pas du tout cité.
Oui,
Sisley. Il est présent à l'exposition. Hein. Voilà, donc ça, c'est Sisley. La photo n'est pas très bonne, elle est bien mieux sur l'ordinateur. Et ça, c'est Sisley aussi. On met carré blanc, on est efficace. Voilà, Sisley. Et ça, c'est Cézanne. Vous savez, tout à l'heure, j'ai montré, vous avez pensé à différents artistes. En fait, c'est Cézanne. À vrai dire, Cézanne, il a failli ne pas participer, parce que c'est Monet qui l'a amené, mais Degas n'était pas du tout d'accord. Degas estimait que Cézanne n'était pas bien. Donc Cézanne a failli ne pas participer, mais finalement, ça a pu se faire. Et donc Cézanne a exposé ça. Et ça. Vous l'aviez dit d'ailleurs tout à l'heure. Non seulement vous aviez prononcé le nom de Cézanne, en disant tiens, c'est peut-être Cézanne, mais vous avez également trouvé le thème. C'est bel et bien Olympia. Vous le disiez tout à l'heure. Et c'est un homme qui s'appelle Une moderne Olympia. Donc c'est une reprise de l'Olympia de Manet, mais d'une manière moderne. Hein. Donc vous aviez bien trouvé ça. Bien trouvé aussi que c'était très onirique, pour ne pas dire opiumal. Hein. Parce que ce que vous avez là, c'est, je dirais vulgairement, on a fumé la moquette. Hein. C'est vraiment très... c'est une vision baudelairienne. Hein. C'est Baudelaire, si vous voulez. Hein. Et vous voyez que là, Olympia, enfin rien ne nous n'est pas varié. Hein. Elle est dévoilée par sa servante devant un monsieur qui se régale l'œil. Hein. Vous voyez, on est vraiment dans des vieux oniriques, avec une table un peu chinoise sur le côté. Enfin, on est vraiment dans cette atmosphère des paradis artificiels qu'on aime tant. Dans les milieux, oui, il y a le petit chien qui est incroyable. Hein. Alors, si un tableau, plus que les autres, a un peu fait scandale au moment de l'exposition des impressions, entre guillemets, c'est bien celui-là. Hein. Parce que là, quand même, ça allait un peu loin. Et d'ailleurs, on a eu même peur qu'il soit lacéré. Hein. Parce que... je veux dire que là, il n'y avait pas seulement des tâches, il y avait le sujet. Hein. Et un sujet... voilà, c'est un peu scabreux. Enfin, on le trouve scabreux là, mais 5 mètres plus loin, quand au salon, on montre des Vénus comme ça, avec des esclaves musclés à côté, on ne dit rien. Hein. Mais là, on le trouve scabreux. De poids, de mesure.
C'était hein. Pas l'origine du monde. Voilà. Ça n'a pas absolument. Favorisé l'entrée de la véritable Olympia de Manet
absolument.
Dans les collections
nationales.
Républicaines.
Absolument. Tout à fait. Donc voilà pour les artistes connus, si vous voulez. Hein. Vous voyez que ça fait une brochette intéressante. Alors, il y a des artistes beaucoup moins connus. Kals, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un artiste normandie, très, très intéressant. Bureau. Alors, Bureau, ce n'est pas un artiste super connu. Hein. Voilà. C'est lui qui a fait ça. Bien. Alors, Roire, qui est intéressant, parce que Roire, c'est en même temps un collectionneur hein, et un critique. Donc, Roire est à la fois un impressionniste, mais quelqu'un qui, si j'ose dire, travaille de l'autre côté de la barrière, pourrait-on dire. Hein. Ça, c'est Stanislas Lépine. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. C'est un de ces petits impressionnistes qui expose, vous voyez, avec ses camarades. Alors, de même, Guillaumin est un peu, avec Lépine, un de ces impressionnistes de deuxième vague, pourrait-on dire, hein, un peu connu quand même. Très beau tableau de Armand Guillaumin, ici. Alors, il y a un Italien dans l'histoire, De Nittis. Alors, De Nittis, vous le connaissez peut-être parce qu'il a fait beaucoup de vues parisiennes, où on voit l'Arc de Triomphe, des petites dames qui passent devant, enfin, des vues un peu sympathiques de Paris, dans cette deuxième moitié du 19e. De Nittis a beaucoup fait ça, mais il a fait aussi des paysages, notamment d'Italie. Comme ce que vous voyez là, il appartient à ce groupe. Le Pic, alors ça, c'est un dossier que vous connaissez sans doute pas trop. Oui, Napoléon Le Pic. C'est un artiste qui a également fait beaucoup de gravures, et c'est un artiste qui avait exposé et des peintures et des gravures. Tout comme d'ailleurs Braquemont. Braquemont, c'est un artiste très très intéressant. Il a travaillé beaucoup dans l'ornement, l'ornementisme, et c'est un graveur remarquable. C'est lui qui a fait le portrait de Baudelaire. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, il y a également un sculpteur qui s'appelle Autin. Cette sculpture, on la connaissait sans doute, elle est dans les jardins du Palais du Luxembourg à Paris. Hein, vous savez, le jardin du Luxembourg, avant, il y a une espèce de grotte avec Polyphème. Vous voyez ça, hein? Mais il y a Polyphème sur son rocher, puis en dessous, il y a Cis et Galatée, que voilà. Donc ça, c'est une sculpture qui était présentée, non pas dans sa version en marbre, mais dans son réduction en bronze. Là, je vous ai montré la version définitive en marbre. Donc voilà le contenu résumé exposition des impressionnistes, entre guillemets. Il manque des gens. Qu'est-ce qui manque qui n'a pas exposé ?
Manet.
Il n'y a pas de Manet. C'est que Manet, il n'a pas voulu exposer. Mais non, il avait été demandé. Il n'a pas voulu exposer. Pourquoi ?
Parce qu'il était à l'autre. Il était à l'autre salon.
Alors, pas trop. Et de toute façon, un certain nombre de ces artistes sont dans les deux. Hein. Là aussi, c'est une vision qu'il faut avoir. C'est-à-dire que ne voyons pas là les artistes parias qui sont interdits au salon officiel. Non, certains exposent au salon. Boudin expose au salon, par exemple. Hein. Donc, on n'a pas là que des artistes refusés partout et qui enfin trouvent un moyen de se montrer. Non, il y a des artistes qui jouent dans les deux tableaux. Hein. Vous voyez, ça relativise un peu la vision qu'on a un peu trop romantique des impressionnistes. Hein. Donc, évidemment, il manque Manet. Donc Manet, la raison, c'est pas forcément parce qu'il est pas forcément dans l'autre salon et donc pas là. Il y a peut-être une autre raison. Pardon ?
Il s'entendait pas avec Manet.
Ça allait à peu près, même s'il est d'une génération un tout petit peu antérieure. Non, il y a un truc qui pose le problème à Manet, c'est les taches. Manet, cette idée de tachisme. Et pas du tout. Lui était plutôt contre cette idée-là, ce qui est étonnant quand on voit son travail. Hein. Mais Manet, l'idée tachiste, si j'ose dire, est à l'encontre de ses théories. Donc il ne veut pas exposer avec eux. Qu'est-ce qui manque encore ? Qu'on a évoqué, mais qui n'est pas exposé. Pardon ?
Caillebotte.
Alors Caillebotte n'y est pas, par exemple. Ouais. Corot n'y est pas. Il avait été invité, il n'a pas voulu non plus. Alors aussi parce que Corot, il est quand même un peu vieillissant à l'époque, c'est un petit peu rude, mais enfin il ne veut pas s'y associer. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir comment certains de ces artistes, que souvent on met peu ou prou hein, dans ce wagon impressionniste, ne se solidarisent pas forcément. D'ailleurs, une des choses qui a été remarquée par les critiques, c'est quoi à votre avis ? Quand vous regardez cette sélection que je vais montrer, il y a peut-être une chose qui peut frapper, par exemple, entre ce que je vous montre là et Monet.
Là, c'est très réaliste.
En fait. Oui. Réaliste et puis...
Classique.
Voilà.
C'est-à-dire que... Il n'y a pas de peinture d'histoire.
Ben, oui, voilà. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'un certain nombre de critiques ont remarqué, c'est le côté très hétérogène, finalement, de ces exposants. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Parce qu'effectivement, entre Cals, vous avez le vieux pêcheur de tout à l'heure, hein, qui est une peinture très naturaliste, hein, vraiment. Hein, et par exemple, ça, et par exemple, la danseuse de je sais plus quelle est d'ailleurs, de Renoir, c'est pas du tout pareil, vous voyez ce que je veux dire. Donc certains vont plutôt, un certain nombre des critiques, et là, ils n'ont pas eu tort, vont souligner le côté très hétérogène de tout ça. Hein. Et d'ailleurs, bientôt, ce groupe des impressionnistes va, au bout de 10 ans, va complètement exploser, si vous voulez. Degas va s'en dissocier, etc. Tout ça va aller dans plein son nom. Vous voyez, c'est l'exposition impressionniste est faite un peu de briques et de bois. Alors, je voulais aussi vous montrer quand même, en deux secondes, là, une photo du salon officiel. Parce qu'on a beaucoup parlé des questions des impressionnistes. Je voulais vous montrer, non pas une photo, hein, mais la photo d'un tableau montrant le salon, alors c'est 1880, hein, mais ça vous montre bien l'ambiance. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment pas du... Alors il y en a partout, ça couvre les murs. Pardon ?
C'est
C'est très entassé.
On va dire que dans le salon, on a des milliers d'œuvres à présenter, donc on ne perd pas un centimètre carré. Hein. On va en masse. Pardon ? Oui, mais le tout est de les montrer, comme ça tout le monde pouvait tout voir, et puis disait, oh ben non, j'aime bien celle-là, puis celle au fond, voilà. Hein. Donc, effectivement, elles se sont concurrentes. Qu'est-ce qui fait qu'elles se concurrencent, d'ailleurs ? Il y a peut-être deux choses qui sont frappantes quand on voit cet accrochage-là. Enfin, deux,
parce qu'il y en a qui sont très basses à portée
de
vue, et puis d'autres qui sont beaucoup plus.
Voilà, alors vous avez des hauts, des en bas, des en haut. Hein. Et puis quoi d'autre aussi ?
La taille.
Hein. Voilà, vous avez des formats énormes, et puis des petits machins. Hein. Vous voyez, des petites peintures, puis au-delà de ça, des formats énormes.
Les thèmes non plus.
Si vous avez l'un au-dessus de l'autre, regardez à droite, vous avez manifestement ce qu'est une peinture d'histoire. Et au-dessus, il y a un paysage. Donc, il y a vraiment. Tous les thèmes sont absolument mélangés. Les tailles aussi. Le tout, c'est pas perdre de place. Voilà. Après. Hein. Et puis, qu'est-ce qui vous frappe également par rapport, cette fois, à l'ambiance générale ? Pardon ?
Il y a un monsieur qui dort à droite.
Oui.
Ça fait un peu braderie.
Oui. Braderie chic, quand même. Hein.
Oui,
chic, hein. C'est un événement mondain. Hein. Pardon ? On déambule. Oui. Oui, donc c'est une espèce de lieu de promenade familial. Vous voyez, il y a une petite fille. Hein. On dit avec papa, maman, il n'y a pas le chien. Hein. Donc c'est très, très familial. C'est assez huppé, mais ça peut être par moments assez populaire aussi. Hein. D'ailleurs, les critiques, enfin, ça y va. Hein.
Est-ce que l'on commerce?
On commerce pas, mais on voit ce que l'on va pouvoir acheter. Hein. Donc c'est pas un lieu de vente, c'est un lieu où l'État fait ses emplettes. Hein. Où l'État dit, on va acheter ça. Hein. Donc le salon est le grand lieu d'exposition pour que l'État puisse acquérir. Par contre, alors évidemment, après les amateurs peuvent dire, ah ben écoutez, monsieur Courbet ou monsieur je sais pas qui, j'ai vu une œuvre là, vous me la réservez. Voilà, ça c'est faisable.
D'ailleurs, il y a un rideau comme si on était une pièce de théâtre.
Absolument, il y a de ça. Absolument. Voilà. Je voulais montrer ça pour vous donner un peu l'ambiance. Alors, pour terminer, je vous ai fait un petit misto frutto d'œuvres, de Monet ou pas de Monet, cette fois pour essayer de voir, de nous mettre dans l'ambiance. Hein, parce que Impression Soleil Levant, c'est une œuvre impressionniste. On a vu tout à l'heure que sa force était. J'allais dire une certaine réalité, mais qui finalement n'était pas une tant que ça. Et puis une peinture qui, dans les traits symptomatiques par rapport à toutes les œuvres impressionnistes, hein, montre justement le sentiment, l'impression, décidément, plus qu'autre chose. L'idée, c'est de faire ressentir plutôt que de montrer de manière parfaite les choses. Hein. Donc un réalisme tempéré, on va dire, et une volonté avant tout de signifier une impression. Donc, je vais vous montrer là une série d'œuvres, soit de Monet, soit d'artistes qui ne sont pas Monet, mais qui ont pu intéresser Monet et l'inspirer dans son travail. Hein. Et on va essayer de démêler l'un de l'autre. Ça, c'est quoi, à votre avis ?
Une vue
d'Étretat. Par qui ?
Bouddha.
Par Bouddha. Une vue d'Étretat dans une forme particulière, quand même. Qu'est-ce qui se passe là ? Pardon ? C'est la tempête, mais même, il pleut. Hein. Hein, c'est Étretat sous la pluie. Hein. Voilà. Et ça, une œuvre de qui ?
Millet.
Ça, c'est de Millet pour le coup. Absolument. Hein. Et Millet, vous voyez, est quelqu'un qui peut travailler ses visions crépusculaires, qui donne cette impression. Alors, Millet, c'est avant Monet. Hein. Mais on voit comment Monet a aussi ça dans l'œil. Ok. Monet, pas Monet ?
Pas Monet.
Pas Monet. Mais c'est qui ? Si c'est pas Monet. Ah, c'est bien gentil de me dire pas Monet, mais comment dire plus ? Pas d'idée ? Eh bien, on verra tout à l'heure. Monet, pas Monet ?
Si, c'est Monet.
Turner ? Monet ? Non, pas Turner. Pas Turner. Bon. Monet, alors.
Manet, Monet, Turner, Manet. Bon, ça patauge à peu près autant que dans le vrai. Hein. Bien. Eh ben, on verra. Hein, que vous l'ayez, c'est des œuvres qui travaillent toujours cette idée que vous avez dégagée tout à l'heure, hein, cette impression atmosphérique, hein, qui est à la fois réaliste mais qui nous dégage une réalité en même temps. Hein, c'est un peu les deux. Pardon ?
Monet,
ça. Monet.
Monet,
Sisley ?
Sisley.
Waouh ! Non. Cézanne. Cézanne.
Non.
Non. Eh bien, on verra. Ah, Turner, peut-être. Hein.
Et c'est très hollandais.
Très hollandais. Van Gogh. Ah, Van Gogh, on n'a pas parlé encore de celui-là.
Non.
De toute façon, il n'était pas dans l'expression des impressionnistes. Comme Millet, il n'y était pas non plus. Hein. Vous avez remarqué qu'il n'y était pas non plus. Bon. Eh bien, on enchaîne. Oula. Boudin. Cézanne. Bon, les photos sont moins bonnes là que sur mon ordinateur. Je veux dire, hein.
Alors, Monet, là, c'est
Monet.
Monet. Là, c'est Monet avec ses.
Monet.
Encore le
Venise. Venise.
Ça peut être du César.
Sisley.
Non, César.
César. Bon, bah écoutez. Encore une fois, je vous montre des œuvres autour de la même idée. Hein. Le crépuscule, le lever du soleil, des atmosphères un peu brumeuses, qui sont baignées de lumière ou au contraire encombrées de ténèbres ou de brouillard. Et là, on est donc chez qui ?
Non, ça fait très flamand, là, avec,
très
les coiffes, avec les coiffes et tout, ça fait plutôt Pays-Bas.
Pays-Bas. Super.
Voilà.
Là, c'est la ténèbre, carrément. Hein. Un bateau qui a échoué.
C'est pas Monet.
Pas Monet.
Non, c'est plus ancien.
Bon.
Monet.
Un piège. Oh non, je ne fais pas de piège. C'est pas mon genre. Monet.
Ça peut être
Monet. Ça peut être
Monet.
Monet aussi.
Monet
is Monet. Hein. Bien. Pardon. Alors là, je vais vous passer les mêmes, mais dans un ordre un peu différent, mettant Monet d'un côté et les artistes qui ont pu l'inspirer, tout, mais dans ce genre d'idées, entre guillemets, impressionnistes, des sortes d'impressionnistes avant la lettre. Hein. Ok. Alors, on commence par Géricault. Hein. Ça, j'ai entendu, il y a un radeau. Je me suis dit, tiens, le radeau de la Méduse va débarquer. Hein. Géricault. Hein. Mais c'est intéressant parce que vous voyez que, décidément, Monet, il ne va pas totalement inventer, je vous remets l'impression, soleil levant. Ça vient d'un tréfonds de gens qui ont travaillé ces idées atmosphériques. Hein. Géricault, en France en tout cas, en fait partie. Mais il y a aussi Turner, car c'est Turner. Hein. Ça, Turner, c'est un artiste fondamental, hein, quand même, hein, qui est très très important. Et voilà donc l'œuvre de Turner, hein, qui effectivement, étant quand vous voyez le soleil là, c'est l'impression soleil levant. Hein. C'est vraiment tout à fait extraordinaire. Hein. Très belle œuvre de Turner. Delacroix. Eh oui, on ne connaît pas les paysages de Delacroix en Attance, qui sont extraordinaires. Et voilà un paysage de Delacroix, vous voyez, en 52, Delacroix qui fait un travail très atmosphérique, hein, avec des taches. Hein. Manet n'aurait pas été content. Hein. Millet, ça vous l'avez vu tout à l'heure. Hein. Alors Millet qui ne figure pas dans l'expression des impressionnistes, pas plus que les autres, là, hein, parce qu'à vrai dire, c'est quand même un peu un artiste taupe, il meurt l'année d'après. Hein. Enfin, mais tout ça fait partie un peu d'une sorte de paradis
qui plane au-dessus d'un vagin, comme Jonquin. Hein, vous avez dit, tiens, regarde la Hollande. Ben, et pourquoi c'est un Hollandais, hein? Jonquin, il lui avait été proposé l'exposé, il a refusé lui aussi. Hein. Donc vous voyez qu'il y a quelques artistes comme Jonquin, on voit aujourd'hui Jonquin, il est passé dans impressionniste. Hein. Ben, quelque part, c'est pas très juste, puisqu'il a refusé d'exposer à l'exposition des impressionnistes, entre guillemets. Manet. C'était Manet. Et en fait, vos Hollandais, ce sont des Bretonnes. Pas des Bretonnes. Des Bretonnes normands. Courbet. Courbet. Courbet fait aussi partie, hein, quand même, de toute cette engeance, si vous voulez. Hein. Alors lui non plus n'a pas du tout exposé à cette occasion. De toute façon, il doit déjà être en Suisse à ce moment-là. Hein. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a après ? Ah oui, ah oui, ben, il y a les œuvres de Monet lui-même que je voulais vous montrer quand même. Hein. Mais vous avez bien identifié celle-là. En fait, c'est Étretat, c'est Monet. Hein. Voilà. Ça, c'est de Monet aussi. Ah. Étonnant, hein, hein. Étonnant. Bon, vous avez reconnu toute une série de vues londoniennes. Hein. Vous savez, il a fait toute une série de vues du Parlement. Bon, là, je vous en montre d'autres. Hein. Voilà. Et puis, effectivement, toute une série de ponts, de bridges. Voilà. De Rouen. Voilà. Et puis ça, c'est Monet aussi. Voilà. Alors, justement, vous avez raison. Là, vous venez de parler de la cathédrale de Rouen. Effectivement, tout ça, ce travail de Monet sur les impressions, hein, que inaugure Impression Soleil Levant, mais qui a comme background toutes les références dont on vient de parler et tout le travail de Monet lui-même va réaliser, que je viens de vous résumer, va donner effectivement la série, vous savez, les fameuses séries, celle des gares, hein, où il y a toujours cette brume industrielle, celle des cathédrales de Rouen, vous l'avez dit, hein, également celle des meules de foin, hein, et puis aussi celle des peupliers dans le vent, vous savez. Et Monet a fait toute une série de séries, si j'ose dire, que je vous ai résumées là. Alors, pour terminer, je voulais simplement vous montrer en deux secondes, parce que nous arrivons à la fin, hein, comme d'habitude, enfin, quand j'en trouve, hein, quelques petites caricatures du temps. Voilà quelques caricatures de Cham. Cham est un de ces critiques du temps, des critiques par le dessin, qui a donc visité l'exposition et qui monte ici, vous voyez, dans un dessin, exposition des impressionnistes. Et là, vous voyez deux personnes qui visitent l'exposition, une révolution en peinture, et qui débutent en faisant de la terreur. Hein. Visiblement, ils ont peur en voyant les œuvres impressionnistes. Hein. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, on s'est un peu arrêté aux caricatures pour croire que c'était ça la réception de l'exposition. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme si aujourd'hui, on regardait uniquement les vignettes du canard enchaîné pour voir comment sont les réactions. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais Cham, si vous voulez, il force le trait, bien entendu. C'est ça, les caricaturistes. Hein. Donc, c'est une sorte de réalité un peu décalée, quand même. Hein, voilà une autre caricature de Cham que je crois c'est marrante, si j'ose dire. Monsieur le peintre impressionniste, vous avez appris où avez-vous appris à la mort, hein, voilà, ça en dit long. Mais ma préférée, c'est la suivante. Voilà, vous voyez, en fait, lecture cachetant plusieurs toiles d'exposition des impressionnistes pour s'en servir en cas de guerre. Les lectures qui ont acheté des tableaux impressionnistes et ils les montrent à leurs assaillants, n'est-ce pas, qui s'en voient absolument épouvantés. Elle est marrante, celle-là. Il y a quand même de l'idée. Hein. Donc, vous voyez, les critiques les plus méchantes, c'est celle-là. C'est quand même assez sympa. Ben voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Hein. J'espère que cette séance aura permis également de décaper un peu le regard qu'on a sur une œuvre archi-célèbre, mais qui finalement demande peut-être à être un peu accompagnée. Et voilà. Bravo à vous. Eh bien, on se retrouve dans une semaine, si je ne m'abuse. Pour la suite des événements.